Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! À ses débuts, en 1983, personne ne l'attendait et peu de gens imaginaient ce qu'elle allait devenir. 40 ans plus tard, elle demeure la reine de la pop, incontestée, inimitable et toujours aussi provocante. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, Madonna, une carrière au service de la controverse, des tendances, mais avant tout, de la musique pop.
Qui aurait cru, à l'époque de Like a Virgin, que cette femme-là aurait cette constance, ce souffle, cette capacité de produire des choses beaucoup plus fines que prévu?
Oui.
Je me souviens que j'étais un de ses principaux détracteurs. À un moment donné, lorsqu'elle est venue en concert, en spectacle à Montréal, tout a changé.
Je la considère comme une passeur entre les tendances les plus avant-gardistes et la pop culture.
Oui.
Elle prend ce qu'il y a de meilleur, elle le diffuse dans vraiment de la culture de masse, mais bien faite, vraiment bien tournée, ouais. Agréable comme tout.
Excepté d'un échange entre le critique musical Alain Brunet et l'animatrice Marie-France Bazot, l'émission Indicatif présent à notre radio, c'était en septembre 2000. C'est une icône intemporelle, une figure emblématique de la culture pop. À ses débuts en 1983, Madonna bouscule une industrie principalement contrôlée par les hommes. Provocatrice, elle choque l'Amérique puritaine, mélangeant sexualité et religion. En 1992, elle se met à nu dans son livre Sexe, un projet aussitôt descendu par la critique. Mais Madonna a cette capacité de rebondir et de se réinventer, dans ses looks comme dans sa musique, grâce à un public qui lui reste fidèle. Encore à ce jour, elle détient le record de l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques dans le monde, 300 millions d'exemplaires, et une nouvelle tournée à l'aube de ses 65 ans. Une façon de souligner ses 40 ans de carrière.
Montréal est tombé en amour avec Madonna. Et comme des gens amoureux, les fans de la superstar sont prêts à toutes les folies pour leur idole, comme payer jusqu'à 150 $ le billet au marché noir pour assister à son concert. Et hier soir, Madonna s'est donnée en tour à son public au comble du ravissement.
Vous êtes prêts? Je suis prête aussi.
Née, comme elle nous l'a rappelé, d'une mère québécoise, elle s'est souvent adressée en français à son auditoire. En fait, on l'a d'emblée adoptée comme quelqu'un de la famille.
Numéro un, c'est fantastique, too much. On revient demain soir.
Pourquoi est-ce que vous l'aimez, Madonna?
Parce qu'elle est exubérante, elle met la joie de vivre, puis c'est bon.
François Harvey à Montréal.
C'est un reportage diffusé au Montréal ce soir, le 7 juillet 1987, lors de son premier concert au Québec, au Mythique Forum de Montréal. 150 $ sur le marché noir, c'est presque une aubaine aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque, hein, il y a presque 40 ans. Alors, pour nous parler de ses 40 ans de carrière, mon invité, Jean Simard, spécialiste de la musique pop et, oui, grand fan, je pense, de la Madonna.
Faut le dire.
Oui, il faut le dire. Merci d'être là. Dis-moi, pourquoi son histoire, maintes fois racontée, demeure pertinente, considérant que sa musique, sa nouvelle musique, résonne beaucoup moins depuis quelques années?
Bien, en fait, on associe Madonna à deux décennies importantes, donc les années 1980 et 1990. Et les icônes de cette période, bien, il faut le dire, elles sont pratiquement toutes disparues. Et Madonna demeure un rappel important de cette exubérance pop. Elle a fracassé tellement de records, influencé une pléiade d'artistes et accompli des choses importantes qu'il faut remettre en lumière. Et elle le disait elle-même lors d'un discours après avoir reçu la distinction « Femme de l'année » en 2016 au prix Billboard. Et je la cite, « La chose la plus controversée que j'ai faite est d'être restée présente sous les projecteurs. » Alors juste pour ça, dans une industrie sans pitié, je pense qu'il est pertinent de parler de son parcours.
Oui, tout à fait. 40 ans de carrière, puis toujours pertinente. Hein? Donc, revenons à ses débuts. Des origines modestes, née au Michigan dans une famille ouvrière, d'un père de descendance italienne, d'une mère aux origines canadiennes-françaises, hein? Ce qui fait que oui, elle parle un peu, ou en tout cas, elle parlait un peu français. Elle quitte le nid familial à la fin des années 70, direction New York. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite accomplir là-bas, à New York?
Elle veut devenir une danseuse classique. À l'école secondaire, elle est très performante dans ses cours et elle participait à beaucoup d'activités qui la mettaient devant le public. Elle adorait les classes de danse et comme elle était supérieure au reste de la classe, un ami l'a amenée au studio de danse du grand chorégraphe Christopher Flynn à Rochester, au Michigan. Et Madonna avait 16 ans. Et cette rencontre avec M. Flynn sera déterminante pour le fondement de sa carrière. C'est le premier homme gay qu'elle rencontre. Il l'amène dans les clubs pour danser et lui fait connaître la fonde nocturne avec des gens qui sortent de l'ordinaire. Déjà, il y avait un contraste avec son éducation ultra-catholique. Alors, en 1976, elle termine son secondaire. Elle est admise à l'Université du Michigan où Flynn vient d'être engagé comme professeur de danse. Et Madonna est déterminée à devenir une grande danseuse, tellement que son professeur la pousse à aller à New York pour poursuivre ses rêves, même avant d'avoir son diplôme collégial. Donc, elle quitte pour la grosse pomme en 1977 avec une valise et quelques dollars en poche.
Oui. Alors évidemment, New York, c'est l'endroit tout désigné en capitale culturelle au lieu de la création artistique. Cela dit, elle n'est pas seule, la compétition est féroce. Qu'est-ce qui l'amène à la musique? Qu'est-ce qui fait qu'elle passe de la danse à la musique?
Madonna va réussir à entrer dans la troupe de danse d'Alvin Alley, l'école la plus réputée à New York. Et ce n'est pas dans le cœur des cours qu'elle va se faire remarquer, mais plutôt lors d'une fête. Donc, elle avait un petit copain et à l'époque, il l'a vu danser, il s'est dit « Wow! » Elle éclipse tous les autres danseurs sur le plancher. Il lui présente donc les membres d'un groupe qui s'appelle The Breakfast Club. Et Madonna va devenir progressivement la chanteuse du groupe et offrir des performances rock un peu partout dans la ville. Elle les quitte en 1980 et continue de faire des petits concerts avec d'autres musiciens. Mais Madonna se cherche encore. Elle est en mode survie. Elle produit un démo musical et la majorité des compagnies refusent de la signer. Les têtes dirigeantes n'aiment pas sa voix.
Oui. On imagine que plusieurs par la suite vont s'en mordre les doigts, mais il y a une compagnie visionnaire, en tout cas, qui la prend sous son aile, le Sire Records. Comment elle obtient ce contrat?
Madonna persévère et promène son démo dans les discothèques. Elle a une chanson, le titre est « Everybody », et elle insiste pour que le disc jockey du Danceteria, qui était la boîte la plus en vogue à l'époque, diffuse sa chanson. Et la réponse est immédiate. Les gens dansent et réagissent fortement à son style de musique, qui est entre le New Wave et le disco. On est en 1982, et de fil en aiguille, elle aura finalement une rencontre avec Seymour Stein, qui est le président fondateur de Sire Records. Et leur début de relation est quand même assez extraordinaire. Ce dernier est à l'hôpital pour une chirurgie au cœur. Madonna arrive avec un magnéto, sa cassette, et elle, et elle repart de la chambre avec un contre-disque.
Ah oui, quand même. Hein? Bon, on va l'écouter justement, cet homme, donc Seymour Stein, qui a lancé sa carrière, nous en parler de sa rencontre avec la jeune artiste à l'époque.
When I heard the tape, it was a song called Everybody. Just a very rough mix of it.
Quand j'ai entendu la démo de sa chanson Everybody, c'était une version de travail. J'étais tellement excité que je voulais lui faire signer un contrat sur le champ. Elle était très impatiente de démarrer sa carrière. Elle avait une grande confiance en elle.
Anxious to get her career going. She had, you know, she just believed in herself that much.
Alors, c'est parti pour elle. Premier contrat de disque, une avance de 5 000 $ pour produire deux chansons, ce qui va l'amener vers son premier album, Madonna, tout simplement, qui sort le 27 juillet 1983, donc à tout près de 40 ans. Comment c'est reçu par le public?
Bien, au début des années 80, le punk et le new wave ont pris leur place dans la culture pop. Le disco n'était pas mort, il faut le rappeler, il était en mutation. Et Madonna arrive avec un album très dansant encore, considéré comme un classique du genre. En même temps, bien, la jeune chaîne MTV qui diffuse des vidéoclips vient de consacrer Michael Jackson. Elle comprend rapidement qu'il faut prendre le contrôle de son image pour faire un effet et elle produit des clips aguichants pour les chansons Borderline, Lucky Star et Burning Up, qui seront tous des succès de discothèque et de radio. Elle assume complètement son image. Un fait très intéressant, Maxime, c'est tout de même prémonitoire car le premier extrait de l'album, c'est la chanson Everybody et la base des paroles sont exactement ce que Madonna va faire. Dance and sing, get up and do your thing,
ah oui.
qu'on peut traduire par danse, chante, lève ton derrière et fais ton truc. Donc, c'est exactement ce qu'elle va faire et c'est ce qu'elle nous invite à faire également.
Oui, tout à fait. Et ceux de notre génération s'en souviennent, hein, au-delà de la musique et du vidéoclip, il y a le style vestimentaire de Madonna qui retient l'attention. À l'époque, et même les toutes jeunes filles, tout le monde voulait la copier ou s'en inspirer. Un exemple ici, reportage de Claude Sauvé lors d'un grand reportage justement sur Madonna à l'émission Le Point en juillet 87.
Mais la première inspiration de la jeune Madonna n'a rien d'exotique. Elle vient simplement de la rue et du marché aux puces. Elle propose à toute une génération un nouveau style, le look Madonna, avec bijoux en toque et bout de chapelet, lunettes noires bon marché, bas en résille et soutien-gorge en dentelle pour toute chemise. L'ensemble est d'un débraillé parfaitement étudié. Le tout est ce que les conservateurs haïssent autant que les féministes, sexy.
Oh, déjà, on l'entend, hein, son look va choquer une certaine partie de la population. C'est jugé trop sexy et elle va choquer davantage avec son deuxième album, cette fois Like a Virgin, qui sera vraiment son premier grand succès numéro un. Elle va se retrouver au cœur de nombreuses controverses et c'est pas la première dans les années 80. Comment tout ça va la servir?
Dans le cas de Madonna, Maxime, c'est ce qui est fabuleux. Il y a une partie de l'industrie musicale qui était encore frileuse devant le phénomène et qui voulait la voir tomber rapidement. Et comme vous le mentionnez, bien, elle a poussé plus loin le contraste entre son image sexuelle et la Vierge dans « Like a Virgin ». Quelques mois plus tard, elle joue dans le film « Recherche Suzanne désespérément ». C'est un rôle qui est proche d'elle. Elle aura des critiques quand même favorables. Mais entre-temps, il y a un crapuleux photographe qui avait pris des photos de Madonna nue en 1979, qui vend les clichés au magazine Playboy et qui les présente en grande pompe à l'automne 1985. Et là, on se dit, ça y est, c'est la fin de sa carrière. On voulait la faire sentir honteuse. Eh bien, c'est ce qui diffère des autres stars. Madonna n'offre aucune excuse et dit publiquement qu'elle assume ses photos nues. Donc, on comprend que se dessine une Madonna qui montre qu'une femme peut marcher la tête haute sans devoir se sentir coupable d'avoir pris des décisions qui peuvent paraître odieuses pour certaines personnes. Elle les assume et elle fait taire les critiques.
Oui. Et puis, elle est toute jeune à l'époque. Hein. C'est important de le mentionner. En 86, elle dédie son album True Blue à son premier mari, le mauvais garçon du cinéma Sean Penn, avec qui elle aura une relation assez tumultueuse. Elle défraie les manchettes à maintes reprises. L'album va connaître, là encore, et plus peut-être, un immense succès en 25 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est son plus populaire. Et puis, elle bouscule les valeurs avec sa célèbre chanson « Papa Don't Preach », une histoire d'ado enceinte qui veut garder son enfant, même si le père lui insiste pour qu'elle se fasse avorter. Et ça, ben, ça fait réagir l'Église, hein, le Vatican, différentes organisations familiales et religieuses aux États-Unis. C'était, ouais, il va pas s'en dire, une grosse controverse, mais rien peut-être comparativement à ce qui s'en vient. « Like a Prayer », encore une fois la religion, en 1989, à ce sujet, Anne-Marie Dussault à l'émission Le Point.
Voilà que la chanteuse rock Madonna est au centre d'une controverse. Son vidéoclip, Like a Prayer, a été banni des écrans de la télévision italienne. La compagnie Pepsi-Cola, qui avait intégré un extrait du clip dans sa publicité, a décidé de la retirer, craignant d'y perdre des clients offensés. Enfin, la direction de Musique Plus en a suspendu la diffusion jusqu'à demain, alors qu'elle décidera du sort de ce vidéo. Où nous mène cette émergence de croisades religieuses qui se multiplient? Est-ce une affaire de morale ou une affaire de gros sous? Bonsoir, Maître Shepard.
Bonsoir.
Est-ce que ce vidéoclip que nous venons de voir est, selon vous, blasphématoire, comme certains le laissent entendre?
Absolument pas. Je m'attendais à quelque chose de choquant et j'ai vu un clip que j'ai trouvé respectueux, très artistique. Le message est un message, j'allais dire, religieux même, et certainement antiraciste. Et on regarde ça et on se demande vraiment si les gens qui condamnent ce clip ont vu la même chose que ce que nous venons de voir.
Ah oui, c'est vrai, de plus en plus, hein, on le voit, on l'entend, elle mêle le sexe, religion, discrimination également, ce qui alimente les critiques, ce qui suscite bien sûr la controverse. Comment elle aborde par la suite donc la nouvelle décennie, la décennie 90?
Encore ici, avec de la musique pop réfléchie et des enjeux de société importants, Madonna brasse la société puritaine et fait taire les critiques. D'ailleurs, Like a Prayer est son premier album dit adulte et plusieurs grands musiciens vont acclamer sa justesse, dont Peter Gabriel. Et Madonna a clairement trouvé un filon avec les clips sulfureux. Et avec le lancement de sa compilation Immaculate Collection en 1990, elle inclut la chanson Justify My Love et tourne un vidéoclip en noir et blanc avec le réalisateur et directeur photo Jean-Baptiste Mondino, dans lequel elle montre de la bisexualité, du travestisme, de l'amour à plusieurs et d'autres fantaisies sexuelles consentantes. Mm-hmm. La chanson devient numéro un, mais pratiquement toutes les chaînes de télé musicale, incluant Musique Plus et Much Music, refusent de jouer le clip. Et pour plusieurs, c'est pas tant les images qui dérangent, mais plutôt le message final de la chanson qui dit « Pauvre est la personne dont le plaisir dépend de la permission d'une autre.
Ouais. » Et ça, c'est caractéristique de Madonna. Hein? Bon, la femme d'affaires qu'elle est va tirer profit de cette censure. On va l'écouter justement l'émission Nightline de la chaîne ABC en décembre 90. Alors que le journaliste lui demande justement ben, est-ce que c'est pas juste un coup de marketing, tout ça, que cette vidéo soit diffusée ou non? On écoute.
Ça peut avoir l'apparence d'un coup de publicité, mais je dois dire que je n'ai aucunement planifié de vendre cette vidéo. J'ai fait le tournage en ne pensant pas si elle serait diffusée ou non. C'est comme ça que je veux m'exprimer, et quand on l'a présentée à MTV, ils l'ont rejetée sans discuter. Alors, avec mon gérant, on a décidé de la mettre en vente en format vidéo unique. Ça n'avait jamais été fait auparavant.
Donc, vous terminez la course avec encore plus d'argent.
Eh bien, la chance me sourit.
Oui, bien, effectivement, parce qu'il y a 1 million de personnes quand même qui vont débourser 10 $ à l'époque pour acheter cette vidéo de 5 minutes sur cassette VHS. Parlons un peu de Madonna sur scène, parce que c'est quelque chose, Madonna sur scène, et c'est celle qui sera bientôt en Amérique du Nord cet été. Qu'est-ce qui fait tant courir les foules? Qu'est-ce qu'on aime de ses concerts?
Bien, dès la tournée Blonde Ambition, elle va créer des spectacles en 4 actes, exactement comme une pièce de théâtre ou un spectacle musical de Broadway. Il y a un fil conducteur avec ses chansons, des costumes impressionnants et des décors qui n'ont jamais été vus pour des prestations en direct. Elle s'entoure des meilleurs danseurs et avec l'aide de son frère Christopher à la direction artistique, ils vont faire évoluer les attentes des spectateurs pour ce genre de prestations. Tout est gigantesque et ce même modèle sera repris pour les 11 tournées mondiales qui suivront. Et entre-temps, elle aura son plus gros hit en 1990, c'est la chanson Vogue, ce style de danse provenant de la scène underground des années 80 où des groupes de minorités sexuelles noires et hispaniques s'affrontent dans des combats de danse et de pose récompensés par des trophées.
Ouais. Justement, parlons-en de la communauté LGBTQ+. Madonna a toujours été populaire auprès de la communauté gay, elle le demeure toujours. Comment on l'explique ça?
Bien, on revient au début de sa carrière avec le professeur Christopher Flynn qui lui a fait découvrir les boîtes gays à la fin des années 70. Et quand elle débarque à New York, elle arrive en pleine crise du VIH-SIDA. Et contrairement à beaucoup de vedettes, elle ne fuit pas la communauté gay. Mm-hmm. Madonna, comme Elizabeth Taylor et Elton John, sera l'une des premières stars de sa stature à parler publiquement de cet enjeu de santé publique. Et tout au long des années 80, elle participe à des levées de fonds pour contrer cette épidémie commencée en 1981 et pour démontrer un exemple concret de son implication dans le livret de son disque « Like a Prayer » en 1989. Il y avait un petit papier qui expliquait les risques reliés au VIH et comment se protéger pour faire l'amour. Il faut le faire dans le livret.
Et puisqu'on est dans la sexualité, ben, 1992, hein, Madonna pousse encore plus loin la provocation avec ce fameux album Erotica, lequel est accompagné d'un livre de photos érotiques, on s'en souvient. Cette fois, l'accueil est plutôt tiède. Pourquoi? Qu'est-ce qui provoque cette réaction à la fois des critiques et du public?
En fait, la saturation, c'est la seule explication. Madonna a lancé trop de produits en même temps. Un disque, un livre et un mauvais film érotico-policier qui s'appelait Body of Evidence. Elle le dira elle-même en entrevue à Geneviève Borne en 1994. « It was too much information. » Il y avait trop de matériel en même temps. L'album Erotica est excellent en soi, mais tout le brouhaha causé par le livre a fait de l'ombre à des chansons engagées qui, ne l'oublions pas, traite toujours de sexualité consentante et de désir exprimé.
À ce sujet, d'ailleurs, tiens, nos collègues Monique Giroux et Michel Desautels qui faisaient l'analyse du livre « Sexe » en octobre 92 à l'émission Montréal Express à la radio.
Enfin, moi, je pense à Gainsbourg quand je regarde ce livre-là. Je pense que c'est de la provocation. Je pense qu'il faut le prendre avec humour parce que ce n'est que ça. Mais moi, mon fantasme à moi, ce serait de me retrouver seule avec elle dans une pièce, la regarder dans les yeux et lui dire « Madonna, là, vraiment, là, pourquoi t'as fait ça? » Je sais pas si elle me répondrait, mais j'aimerais au moins poser la question. Mais à partir du moment où on le réalise, le fantasme n'est plus.
Tout le monde a droit à ses fantasmes. Il y en a qui sont plus bizarres que d'autres, vous avez raison.
Il y en a qui rapportent plus, 2 700 000 en une journée au Canada seulement.
Merci Monique Giroux.
Merci.
Au revoir.
Erotic,
Donc oui, on entend parler des chiffres, hein, un succès commercial, mais une image un peu ternie auprès du public, auprès des critiques également. Comment Madonna réussit à rebondir après ça?
Bien, on oublie souvent que Madonna a dirigé les disques Maverick lors de sa création en 1992. C'était une filiale de Warner Music. Et cette étiquette a lancé plusieurs artistes alternatifs comme Candlebox et surtout la carrière rock d'Alanis Morissette. Et c'est Madonna qui va la prendre sous son aile pour l'album Jagged Little Pill. Elle va réussir à obtenir le rôle d'Evita Perón dans le film du même nom, obtenir de bonnes critiques pour un premier rôle et même gagner un Golden Globe pour sa performance. Et pendant le tournage, elle apprend qu'elle est enceinte de son premier enfant. Lourdes va naître en 1996. Madonna n'avait que 5 ans quand sa mère est décédée, alors cette souffrance va la suivre toute sa vie. Donc, le bonheur de la maternité va lui apporter un baume et stimuler sa créativité. Elle va accoucher également de son album le plus complexe, disons-le. Ça s'intitule « Ray of Light », « Rayon de lumière ». Nous sommes en pleine vague électro et la nouvelle voix de Madonna, après des cours intensifs pour le film Evita, ravit toutes les critiques du monde. Il y a 20 millions de personnes qui vont se procurer l'album sur la planète. Et un fait important, Maxime, en 15 ans de carrière, Madonna n'avait pas gagné encore de Grammy pour sa musique. Elle en avait gagné un en 91 pour une vidéo de longue durée de Blonde Ambition, mais cette fois-ci, en 99, elle remporte des Grammy pour son album Ray of Light. Ça a pris 15 ans qu'elle reparte avec ça.
Mais là, on est au tournant des années 2000. Il y a toute une nouvelle génération qui émerge, hein, des chanteuses, Britney Spears, Jennifer Lopez, Pink, Beyoncé. Comment elle fait, Madonna, pour demeurer à l'avant-garde?
Bien, en 2000, Madonna a 42 ans. On pense qu'elle s'est assagie. Eh bien non, c'est un retour à la musique dance novatrice avec la chanson Music sur l'album du même nom. Et ce sera sa dernière chanson en carrière qui va être numéro un au Billboard aux États-Unis. Et pour s'attirer un nouveau public, elle publiera plusieurs livres pour enfants à partir de 2003. Ce sera des grands succès de librairie. Et quand ça va mal, bien, Madonna a toujours deux portes de sortie. Partir en tournée ou faire un album de musique dance. Elle nous fera cette tactique après l'échec de son album American Life en 2003, en produisant ce que je considère son dernier grand effort populaire, le jouissif Confessions on a Dance Floor.
Ah oui, ah oui.
Un album conçu pour les discothèques, sans aucune ballade. Elle se réapproprie le look disco sophistiqué. Et c'est vraiment une lettre d'amour à ses fans de la première heure. Donc, à partir de cet album de 2005, Madonna n'est plus en avant de la parade, elle la suit.
Oui. Et puis là, elle est à l'aube de ses 65 ans, 40 ans de carrière, tournée mondiale pour le souligner. Qu'est-ce qui reste de Madonna, de son héritage?
Maxime, il nous reste une femme qui continue de contrôler sa destinée, qui a toujours un point de vue sur des enjeux sociaux importants et qui crie pour conserver le lien avec son public d'irréductible. Et par-dessus tout, elle nous laisse un catalogue de chansons qui ont été des hits, qu'elle a écrits et composés et qui demeureront des appels à la réflexion et surtout des invitations à la danse, peu importe l'époque.
Oui. Mais durer, hein, vous le disiez au début, c'est peut-être la chose la plus difficile dans l'industrie musicale et elle le fait depuis à preuve, hein, depuis 40 ans maintenant. Et une nouvelle tournée mondiale cet été. Mon invité, Jean Simard, spécialiste de la musique pop. Merci beaucoup, Jean.
Merci, Maxime.
Merci. À une prochaine. Ben voilà, ainsi s'achève pour nous notre saison. On prend une pause pour l'été et puis on se retrouve pour une autre saison d'Aujourd'hui l'Histoire à la rentrée. Ici Maxime Coutier. Merci d'avoir été là. Merci de votre fidélité. À une prochaine. Au revoir. Bon été. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.